Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. J'ai eu le plaisir de discuter avec Stéphanie Hospital, fondatrice et CEO de One Ragtime. Stéphanie a travaillé chez Orange pendant plus d'une dizaine d'années, de Wanadoo jusqu'à la vice-présidence du groupe, de 2001 à 2014. Une formidable aventure, riche en rencontres, qu'elle m'a racontée lors de notre échange. En 2016, elle lance One Ragtime, un fonds d'investissement tech pas comme les autres, et s'associe avec Jean-Marie Messier, l'ex-PDG de Vivendi. La société révolutionne le sourcing de sociétés en l'automatisant grâce à une plateforme unique et s'appuie sur une communauté forte d'entrepreneurs investisseurs. Depuis, le fonds a investi dans pas moins d'une trentaine de projets, avec des tickets allant de 700 000 à plusieurs millions d'euros. Quelques noms: Jellysmack, Onoff, Medium, Loopsider, Make.org, Zenly ou encore Matchtune. Le plus important selon Stéphanie, donner sa confiance à des entrepreneurs au démarrage de leur société. Ces dernières années, elle a notamment été nommée à 3 reprises parmi les 50 femmes tech d'Europe les plus inspirantes. Elle vous raconte tout dans ce 47e épisode, au menu son aventure chez Orange, de Wanadoo à la vice-présidence du groupe, l'acquisition de Dailymotion et sa rencontre avec son futur associé Jean-Marie Messier, ex-PDG du Vivendi. Comment se déroule un investissement chez One Ragtime? Quelle est la typologie d'entrepreneur dans laquelle elle investit? L'importance des rencontres dans sa carrière et dans sa vie? Ou encore ses conseils pour se lancer? Un grand merci à toi Stéphanie pour cet échange que j'ai beaucoup apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, super important, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si le podcast vous plaît évidemment, de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de me rejoindre sur Instagram @serialentrepreneur tout attaché avec un S à la fin et le tiret du bas. Et moi je vous souhaite une très bonne écoute. Ma première question c'est par rapport à ton parcours, dans quel environnement as-tu grandi ?
Alors, mes parents étaient entrepreneurs puisqu'ils étaient commerçants. Toute mon enfance, j'ai vu mes parents qui travaillaient pour eux-mêmes et qui essayaient de développer leurs affaires. Et à vrai dire, j'ai surtout vu beaucoup de travail, beaucoup de problèmes financiers parce que j'ai eu l'impression que ça n'avait pas été un long fleuve tranquille pour eux. Et ça m'a pas forcément donné envie d'entreprendre. En tout cas, je me suis pas dit quelques années après, j'entreprends parce que j'ai vu des aventures entrepreneuriales dans ma famille. Au contraire, j'ai trouvé que c'était plutôt ardu. Même si, par contre, ça m'a donné bien évidemment le goût de l'effort mais je pense que aujourd'hui, avec le recul, je valorise d'autant plus ce qu'ils ont fait que lorsque j'étais ado et que je trouvais que ils bossaient beaucoup, quoi.
T'as fait quoi comme études?
J'ai fait une école de commerce, j'étais à Grenoble, j'étais passionnée de ski. Et quand j'ai vu toutes les écoles que je pouvais avoir, je rêvais d'habiter près de la montagne, près du ski. Et c'est une passion qui m'habite toujours. Et donc le choix de mon école, à école équivalente, en tout cas qui était équivalente quand je l'ai fait, ça s'est porté sur Grenoble École de Management. Et j'ai adoré parce que en fait c'était une école qui me ressemblait. Je l'avais pas forcément visualisée quand j'ai choisi. Mais c'était à la fois une école qui a été très, très tôt tournée vers le management technologique. Donc maintenant, ça peut te paraître complètement naturel de parler du management technologique. Mais quand je l'ai fait, il y a quelques années, c'était avant qu'on ait tous la French Tech, l'innovation par les smartphones. Donc c'était très novateur. Et en fait, leur enjeu, c'était de faire travailler ensemble des profils plutôt business avec des profils plutôt tech, plutôt ingénieurs. Donc j'ai adoré ces années d'études à Grenoble, par l'enseignement que j'ai pu avoir à Grenoble, par les rencontres que j'y ai faites, et puis bien sûr par l'environnement, parce que Grenoble, c'était une ville formidable pour étudier et en plus pour profiter de la montagne.
Très bien. Tu fais 5 années d'études là-bas du coup ?
Non, je fais 3 ans et avant j'avais fait une prépa à Bordeaux. Et voilà comment je me retrouve ensuite devoir rentrer sur le marché du travail et j'avais envie de faire du marketing international et puis Après quelques stages baroud aux Antilles où j'ai développé une marque d'eau minérale sur l'arc antillais, donc c'était très sympa. Je suis revenue avec un peu plus de raison. Ma famille m'a rattrapée, m'a expliqué qu'il fallait que je fasse quelque chose de sérieux. Donc c'est comme ça que je suis rentrée en audit. Dans un grand cabinet d'audit de l'époque, Andersen. J'y ai fait 2 ans et puis ensuite j'ai basculé dans les activités conseil et c'était au moment où démarrait toute la vague de l'Internet et j'ai eu la possibilité de tout de suite travailler dans cet environnement pour ensuite me retrouver au bout de quelques années chez Orange, Wanadoo et vivre les années 2004, 2005 et plus. Avec toute la vague de l'Internet qui commençait, en tout cas qui avait déjà vécu sa première bulle, mais qui c'était vraiment le début de l'effervescence technologique, entrepreneuriale dans lequel on est. J'ai baigné dans ça très tôt, d'abord dans un grand groupe, mais toujours à la confluence entre le monde des entrepreneurs, l'international, les gros acteurs Internet. Et puis, je me suis dit, mais moi aussi, en fait, j'ai envie d'être entrepreneur. Après des années d'une carrière plutôt réussie chez un gros corpo, j'ai eu envie d'aventure et d'aventure entrepreneuriale.
Très clair. On va forcément revenir un peu à cette aventure Orange avant de passer sur One Ragtime. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours chez Orange, de ton arrivée chez Wanadoo justement en 2001 au poste de vice-présidente jusqu'en 2014. Comment ça s'est déroulé cette aventure? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette aventure justement?
Moi, toute ma carrière, ça aurait été des rencontres, en fait. Donc, j'ai rencontré l'équipe qui m'a recrutée un peu par hasard en animant un séminaire pour eux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans les équipes de Wanadoo. Et c'était un moment, en plus, où Andersen, à l'époque, m'offrait la possibilité de partir aux États-Unis à San Francisco. Donc, j'ai refusé un départ. C'était un choix cornélien. Est-ce que je rentre dans une super société, en tout cas, qui me paraissait très attractive à l'époque? C'était pas forcément d'ailleurs la vision qu'avaient certains de mes camarades de jeu chez Andersen, mais moi je trouvais que c'était très attractif d'aller chez l'acteur internet français le plus actif à l'époque versus aller aux États-Unis. Donc je me suis posé ce choix cornélien. Finalement j'ai décidé de rentrer dans un grand groupe. Je suis partie chez Orange, Wanadoo, pas mal à l'international puisque j'ai passé du temps entre l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas. Et ça m'a donné tout de suite l'orientation que j'ai eue tout au long de ma carrière chez Orange. Donc, un parcours marqué par l'international, par l'entrepreneuriat, par l'identification de sociétés qui pouvaient être attractives pour Orange, soit pour faire des acquisitions, des partenariats, soit pour pouvoir développer des collaborations, des services ensemble. Donc c'était un monde très ouvert en fait pour moi, qui m'a amené à beaucoup voyager, à rencontrer des personnes incroyables. Et c'est ça que je garderai en fait de mes années Orange, c'est la possibilité d'avoir eu une expérience à la fois très riche en rencontres, très novatrice dans les projets sur lesquels j'ai pu travailler. Très structurante en termes d'activité, de développement d'activité, puisqu'on a monté des opérations de zéro chez Orange, on a fusionné des activités, donc c'était très conséquent en termes d'impact. Et en même temps, un jour, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de faire pour moi. J'ai envie d'être, j'ai plus envie d'être locataire de mon job, j'ai envie d'être propriétaire de mon job en créant mon entreprise. Quand on est dans un grand groupe, en fait, on se rend pas compte à quel point c'est confortable. Et puis, et c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les entrepreneurs. Moi-même, en ayant fait le pas, ça n'a rien à voir avec les risques qu'on peut prendre dans une grande entreprise, même si parfois on a l'impression que c'est dur. Le risque entrepreneurial, le frisson entrepreneurial, il fait tout. Donc, c'est en même temps ce que m'aura donné envie de faire Orange. Et aujourd'hui, je ne l'aurais jamais fait sans cette expérience chez Orange. Et puis, avec le recul, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, en fait?
et puis, chez Orange, quand même, tu étais dans de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que tu étais un peu aussi dans l'entrepreneuriat, mais sans les risques que peuvent comporter l'entrepreneuriat, quoi.
Ouais, en fait, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est la grande leçon. C'est quand tu es intrapreneur, quand tu crées des nouvelles activités dans un grand groupe, tu te dis waouh, c'est génial, c'est risqué, etc. Mais tu as la responsabilité toi-même de devoir trouver l'argent pour payer tes collaborateurs à la fin du mois. Je pense que le niveau de risque, c'est pas le même.
Et le risque est différent.
Voilà, le niveau de reward n'est pas le même non plus. Hein. Si ça marche, ça peut marcher très fort pour toi. Par contre, il y a du risque. Et c'est ce frisson-là aujourd'hui que je vis au quotidien avec tous nos entrepreneurs.
Tu as participé à l'acquisition de Dailymotion. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais, chez Orange, en fait, j'étais amenée à travailler sur pas mal de projets d'acquisition. Alors, il y a eu Dailymotion parce que celui-ci était assez connu. Mais avant Dailymotion, j'en ai un qui m'a encore plus inspirée. C'était dans les années 2000-2005. On a fait l'acquisition en Espagne d'un groupe Internet qui s'appelait RSMAS, qui était un groupe Internet un peu comme Orange, Wanadoo à l'époque, Yahoo, un petit Yahoo espagnol en fait, c'est ça, voilà, un Yahoo espagnol. Et c'est cette acquisition qui m'a beaucoup formée. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de travailler avec un patron assez formidable à l'époque, qui est toujours d'ailleurs Antonio Anguita, qui était un très très grand patron de l'Internet, qui avait passé ses études aux États-Unis et qui avait constitué ce groupe. Et c'est là en fait où je pense que dans toute ma carrière, j'ai le plus appris. Et j'étais certainement amenée à faire une des activités les plus rudes, prendre deux entreprises, les fusionner ensemble, et ce qui a donné aujourd'hui ce qui est Orange Espagne. Donc ça m'a donné très tôt en fait le goût de travailler sur des rapprochements d'entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois passionnant d'un point de vue économique, mais c'est aussi passionnant d'un point de vue humain de comprendre comment deux sociétés qui à un moment peuvent être concurrents, bah, tu vas faire en sorte de les mettre ensemble. Et quand on a racheté Dailymotion, déjà au départ à la base, c'était pas un rachat, c'était un investissement. C'est qu'on avait la vision qu'on pouvait faire avec Dailymotion ce qu'on avait fait avec Deezer et la musique, où du jour au lendemain, Deezer était devenu le plus gros site d'abonnés payants sur la musique grâce à la puissance de feu du marketing d'Orange. Et avec Dailymotion, on s'est dit la même chose. On a l'opportunité d'en faire un acteur de la SVOD. C'était en 2010, hein, donc la SVOD, on n'en parlait pas trop. Il y avait Netflix aux États-Unis. Et on va pouvoir s'appuyer sur un acteur technologique très fort qui est Dailymotion pour aller développer des chaînes et des services de vidéos à la demande pour les abonnés d'Orange. Et puis, on a été amené en fait à faire un montage où on avait... 2 ans de cohabitation avec les fonds de l'époque qui étaient au capital de Dailymotion, en l'occurrence Idinvest, le FSI, donc l'ancêtre de la BPI, et puis Partech. Et moi, c'est cette aventure qui m'a donné envie en fait d'entreprendre comme investisseur en créant un fonds d'investissement. Donc Dailymotion, ça a été je pense, un moment fort de l'histoire de la French Tech, puisque c'est le moment où on a pris conscience que un acteur technologique français pouvait avoir de l'attrait pour des gros acteurs américains et que du coup peut-être qu'il fallait que l'État fasse rempart de son corps pour empêcher une acquisition. Hein. C'était Arnaud Montebourg qui avait défrayé la chronique en expliquant qu'il fallait une fusion d'ego entre Yahoo et Dailymotion. Mais résultat des courses, c'est que le management de Yahoo, on était offusqué et finalement l'opération avait capoté. Hein. Peut-être pour des bonnes raisons, peut-être pour des mauvaises raisons, mais en tout cas, à l'époque, c'était une très belle opération qui allait permettre, de notre point de vue des opérationnels et du management de Dailymotion, de développer très fortement Dailymotion sur les États-Unis en s'appuyant sur un acteur comme Yahoo qui pouvait être de nature à donner la force de frappe suffisante à Dailymotion par rapport à YouTube et à d'autres acteurs des GAFA. Donc, tu vois, ça et cette histoire, en fait, elle était à la fois, elle m'a donné envie d'aller plus travailler avec des géants digitaux. Et en même temps, elle m'a fait prendre conscience de la, du rôle parfois de l'État ou de la communication, parce qu'en fait, c'était pas vraiment l'État, hein, c'était plus une déclaration du ministre de l'économie de l'époque, mais qui finalement n'avait pas une grande portée sur l'opération, mais qui l'a quand même fait capoter. Voilà, donc c'est ça, mais quelque part, moi, je lui en suis très reconnaissant à Arnaud Montebourg, parce que Moi, ça m'a permis d'aller faire One Ragtime, puisque c'est dans cette opération que j'ai sympathisé avec Jean-Marie Messier, avec lequel je me suis associée ensuite sur One Ragtime. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc Dailymotion, pour moi, ça aurait été un catalyseur de mon futur parcours d'entrepreneur. Donc merci Arnaud.
Ouais, et puis c'est une super histoire, enfin hyper intéressante, et effectivement si ça t'a permis de rencontrer ton futur associé après, c'est que du bonus, on va dire.
La vie est faite de rencontres, hein.
Oui, c'est clair.
Finalement, moi, j'ai pas eu de plan de carrière, j'ai eu des rencontres dans ma carrière qui a fait que à un moment j'ai fait telles options et je me suis toujours laissé guider par ça.
Je suis bien d'accord. Et du coup, on va pouvoir passer à One Ragtime. Tu as lancé ce fonds en 2014. Est-ce que tu peux me présenter ce que vous faites chez One Ragtime ?
Alors en fait, j'ai quitté Orange, pardon, en 2014, mais j'ai vraiment lancé One Ragtime 2 ans après. Donc j'ai découvert que entreprendre c'était ardu. C'est que on est fin 2014. Je me pose pas mal de questions sur ce que j'ai envie de faire après Orange. Je sais que j'ai envie de changer d'air. Donc ça c'est une certitude. Et je me dis est-ce que je monte une entreprise? Est-ce que je rejoins un autre groupe du CAC 40? Je continue une carrière corporate? Est-ce que je rejoins une entreprise tech à fort développement et puis je me positionne comme manager dans cette société? Et puis en fait, en regardant ce que j'avais fait toutes ces années auparavant et ce que j'aimais faire chez Orange, je me suis dit, j'ai déjà fait du venture capitalisme, je ne le savais pas, mais quand je regarde le métier, est-ce que font des partenaires de fonds comme Benoît Grossman d'Idinvest à l'époque, Euraseo et Philippe Colombel de Partech, en fait c'est très similaire. Donc j'ai osé penser que je pouvais faire un fonds. Donc en 2014, je pars un peu la fleur au fusil d'Orange en me disant je vais lever un fonds de 100 millions, ça tombe bien en fait, j'ai un premier investisseur qui a envie de s'associer avec moi, c'est Jean-Marie Messier, donc on va y arriver comme ça. En fait, l'histoire était un peu différente, c'est que avant d'investir, il faut avoir des fonds. Et donc, j'ai eu 2 premières années un peu de traversée du désert, on va dire, où j'avais envie d'investir. J'avais déjà le modèle de One Ragtime qui n'a pas bougé depuis, hein. J'avais présenté à Jean-Marie le fait de faire une plateforme d'investissement qui permette à des investisseurs de choisir s'ils allaient investir dans le fonds qui fait tous les projets ou projet par projet, et de digitaliser tout ça pour rendre ça efficace, du coup de s'appliquer aussi à nous-mêmes ce qu'on demandait à nos entrepreneurs puisqu'on allait investir dans la tech, donc d'être une entreprise tech qui investisse dans d'autres entreprises tech. Et la réalité a un petit peu été différente puisqu'il a fallu quelques mois de voir les 2 premières années de non pour que je me dise, bon, la bonne nouvelle, c'est quand on fait un appel d'offres formel, on est deuxième. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est deuxième. Donc, en fait, ça va pouvoir durer des années. Donc, en fait, il est urgent de commencer à investir. On va faire différemment. On va commencer par le club deal. Et c'est comme ça qu'on a lancé la plateforme One Ragtime en novembre 2016 et qu'on a fait nos premiers investissements quelques semaines, mois après. Donc, on a vraiment commencé à investir en 2017. Donc ça me paraît très long aujourd'hui puisque ça fait 7 ans que j'ai démarré One Ragtime. Souvent, hein, d'ailleurs, quand on investit, on te présente des entrepreneurs qui ont, au bout de 18 mois, levé plein d'argent, sont déjà… j'ai appris à décoder les codes et tu te rends compte, et c'est ce qui s'est passé pour moi, que le chemin entrepreneurial est parfois un petit peu plus sinueux et qu'il faut être persévérant, résilient. Moi, j'ai pris des tonnes de noms au début, à tous les niveaux. Hein, j'ai plein de gens qui m'ont déconseillé de faire ce que je faisais, qui m'ont dit que j'y arriverais pas. Et puis finalement, on y est arrivé aujourd'hui, une belle aventure, 5 ans après nos premiers investissements et 7 ans après le départ d'Orange.
Super. Et c'est vrai qu'il faut préciser que quand on crée un fonds, il y a plusieurs manières de faire. C'est-à-dire que potentiellement, on peut, avoir entrepris, revendu sa boîte et créer un fonds avec ses fonds propres. Mais il y a aussi le fait de créer un fonds et de lever des fonds pour ce fonds pour ensuite investir. Et c'est le modèle du coup que tu as eu avec One Ragtime. Si je dis pas de bêtises.
C'est le problème d'être salarié. Si tu veux, quand t'es salarié, tu peux pas avoir des dizaines de millions d'euros à investir, sauf si tu es parti dans une entreprise dans le private equity, t'as été patron d'une entreprise financée par un fonds de private equity avec un beau management package associé, mais Quand on est salarié, globalement, c'est plus compliqué. Donc, moi, je vois souvent aujourd'hui des personnes qui viennent me voir, qui m'ont dit « Ah, je rêve de faire un fonds. » Donc, si c'est un entrepreneur qui a réussi, je lui dis « Mais t'embête pas, hein, tu sais, si t'as de l'argent à investir toi-même, ton propre argent, mais vas-y, c'est la meilleure des choses à faire. Je sais pas si aujourd'hui, si j'avais la possibilité d'investir mon propre argent, si je referais un fonds. Alors, c'est super, c'est génial, mais c'est quand même une lourde responsabilité. Tu t'engages pour l'argent des autres et tu t'engages pour donner une performance à des investisseurs. Et en plus, il faut que ça se fasse assez vite. Donc, en fait, c'est très ardu de faire un fonds. Donc, je te dis, après coup, je suis contente de l'avoir fait. Je pense qu'il y a d'énormes barrières à l'entrée pour arriver à faire un fonds, hein, et surtout comment on l'a fait. Mais c'est peut-être plus simple d'aller lever de l'argent pour aller faire une entreprise qui ne soit pas un fonds.
C'est clair. Et pour cette aventure, tu t'es associé du coup avec Jean-Marie Messier, qui n'est autre que l'ancien PDG de Vivendi. Est-ce que tu peux me parler de cette rencontre, justement, sans doute au moment de Dailymotion, du coup, mais est-ce que tu peux me parler des échanges que tu as eus avec Jean-Marie?
Écoute, c'était à l'occasion de Dailymotion. J'ai eu l'occasion de faire un voyage à New York, et c'était le fondateur de la banque d'affaires qui nous conseillait sur Dailymotion, Messier Maris. Et je ne le voyais pas forcément, mais le collaborateur de Jean-Marie qui travaillait sur le projet avait à mes côtés sur Dailymotion m'a proposé. Je lui ai dit, écoute, je suis à New York, ça me ferait délirer de rencontrer Jean-Marie. Il me dit, bah, ça tombe bien, il est à New York, il t'attend. Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers échanges et qu'on a bien fonctionné ensemble, en tout cas suffisamment pour que Jean-Marie ensuite me dise, viens me voir quand tu as des projets. Et c'est la première personne que j'ai vue quand j'ai eu l'idée de faire de One Ragtime. Et c'est aussi la première personne qui m'a dit oui. Donc tu es toujours, et ça c'est quelque chose qui restera toujours, je serai toujours très très reconnaissante à Jean-Marie de m'avoir fait confiance au début. Et confiance à un moment où c'était pas évident que j'allais réussir à faire ce qu'on a fait après.
Une belle marque de confiance, et surtout au lancement d'un projet, c'est toujours plaisant.
Bah, c'est finalement le propre des investisseurs, hein. Et c'est parfois ce que je retrouve pas dans ce milieu d'investissement où tu as beaucoup de personnes qui veulent y aller quand les autres y vont. Mais donner sa confiance au début à un entrepreneur qui démarre ou qui a pas encore fait tout à fait ses preuves, c'est beaucoup plus engageant. Et nous, c'est ce qu'on aime faire avec One Ragtime, hein. C'est que moi, ce que j'adore faire, hein, c'est de démarrer très tôt dans les projets, d'être le premier investisseur aux côtés des entrepreneurs. Parce que je sais la valeur, en fait, que a cette confiance que quelqu'un peut mettre en toi. Il y a l'argent, certes, mais il y a aussi le fait que quelqu'un te dise « j'y crois et vas-y, fais-le ».
Très clair.
Et c'est ce que mon mari a fait avec moi.
C'est clair. Quelle est la typologie de boîtes dans lesquelles vous investissez?
Alors, nous, on aime bien… déjà, on n'investit que dans des sociétés qui font du logiciel. Donc, on n'aime pas quand il y a un composant hardware, quand il y a un magasin, donc une présence physique. Il faut que ça soit du logiciel. On sera peut-être amené par le futur à évoluer un peu, mais pour l'instant, sur la trentaine de sociétés qu'on a financées, c'est ça. On investit dans trois grands domaines qui sont tout ce qui est autour des contenus, des plateformes d'influenceurs, des services de communication. On adore aussi tout ce qui est fintech assurance, mais avec des modèles capital efficaces, donc pas des modèles qui vont demander beaucoup de capitaux. Donc, on préfère les intermédiaires financiers aux néobanques, on préfère les courtiers d'assurance aux assureurs. Et puis, le dernier champ, c'est tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle appliquée à des secteurs d'activité, avec quand même des modèles commerciaux. Donc, voilà, on est investisseur minoritaire. Ça veut dire qu'on investit toujours sans contrôler les entreprises, hein. On a entre 15 et 25% d'entreprises au moment où on investit. Et généralement, on rentre assez tôt. Et on aime bien les entrepreneurs atypiques. Alors, un entrepreneur atypique, c'est quoi? C'est très difficile à décrire. C'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres, qui a quelque chose de différent. Donc, on va aller chercher la différence tu vois, récemment, on a financé le projet de Emma Aziza et Sébastien Sachetti. C'est un projet, Emma Aziza, elle est climatologue, hydrologue. C'est une femme scientifique, voilà. Donc, c'est pour moi, c'est remarquable. On a été financé des pas mal de serial entrepreneurs qui en sont à leur deuxième entreprise. Je pense notamment aux fondateurs de Gélismac, Robin Savan et puis Michael Philippe, qui était notre premier investissement One Rectam et qui ont fait une merveilleuse réussite. Hein. Si tu t'intéresses à la vidéo et aux médias, Gélismac aujourd'hui, c'est très, très gros.
Carrément.
C'était des serial entrepreneurs. Ils avaient déjà fait une première entreprise avec le kiosque. Éric Mignot, chez Plus Simple, avait un parcours de CEO de Boursorama. Plus Simple, c'est un courtier d'assurance digitale pour les pro-PME. On a Ty Chris, qui est sportif de l'extrême, qui fait on-off ensuite. On est les premiers à lui dire, écoute, t'es pas du tout du CRI des télécoms. Ce que tu as fait, ça semble incroyable. Ben, justement, on va y aller. Pareil, tu vois, je pense à Axel Dauchez, hein, qui était le patron de Deezer, qui fait Mec.org. Donc, on aime bien ces fondateurs avec un peu de bouteille, avec un peu une expérience différente. C'est ce que j'appelle les fondateurs atypiques. C'est des fondateurs remarquables. Après, on peut être sur des fondateurs, je dirais, beaucoup plus attendus par les fonds, jeunes, trentenaires, parisiens. Alors ça, c'est un vrai sujet dans la tech, hein, c'est qu'on n'a pas beaucoup de diversité, mais on peut le faire. Mais on aime bien sortir des sentiers battus, on aime bien les personnalités remarquables.
Ouais, franchement, c'est admirable et j'aime beaucoup la typologie d'entrepreneurs que dans lesquels vous investissez. Donc c'est franchement respect et bravo pour ce que vous faites avec One Rectime. Maintenant, on va parler un peu plus des investissements. Comment se déroule un investissement chez One Rectime? Par exemple, je suis investisseur, j'ai, je sais pas, un ticket de 100 000 euros à investir. Comment ça se passe?
Alors, c'est super simple. Si tu as envie d'investir chez nous, tu peux aller en ligne sur le site One Rectime. Tu mets « je suis investisseur » et puis à ce moment-là, on va te demander de te faire connaître. On va faire ce qu'on appelle ton KYC en ligne. Donc, et puis si tu es validé, parce que tu réponds à certains critères de capacité d'investissement, parce que c'est aujourd'hui le critère, il faut que tu sois un investisseur averti. Bah, à ce moment-là, on va te donner accès au projet de la communauté One Rectime. Et soit tu investis projet par projet, soit tu investis dans le fonds Rhapsody qui fait tous les projets sur une période donnée. On a des vintage et là, on est en train de faire notre premier vintage puisqu'on a lancé ce premier fonds il y a maintenant un an. Donc, et nous, en fait, on va voir sur la plateforme des projets qui sont des nouveaux projets qu'on démarre en investissement et puis des projets qui ont déjà été financés il y a 2-3 ans et qui en sont à leur tour suivant de financement dans lequel on va faire entrer des nouveaux fonds. Et nous, on va suivre ce qu'on a fait dans les sociétés. Donc, on a aujourd'hui toujours à peu près une à deux opportunités d'investissement par mois. Et si tu es un entrepreneur, bah c'est pareil. Soit tu m'envoies un mail à stéphanie@oneractime.com. Pareil d'ailleurs si tu es investisseur. Hein. Soit tu vas sur la plateforme et tu peux te connecter ou sur l'application mobile et enregistrer ton dossier en ligne.
Très clair. Vous qui écoutez ce podcast, je pense que le message est passé. Le projet Rhapsody, c'est un lien forcément avec Queen. Oui.
Exactement. C'est Rhapsody Blue, c'est du ragtime, c'est Bohemian Rhapsody, parce qu'on a une partie de l'équipe qui est à Barcelone, donc voilà, parce que c'est le ragtime. Et dessus, tu vois, on voulait être un peu différent au début de One Ragtime. On se disait, on va pas faire un fond en gris avec des hommes en gris, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus frais. Plus coloré, plus opérationnel, plus proche des entrepreneurs. Après, je ne sais pas si c'est ce qu'on est en train de faire. En tout cas, c'était les valeurs et l'envie qu'on a eues au début. Voilà, donc, et moi, c'est ce qui m'amuse. Hein. Souvent, on se dit, quand on choisit un projet entrepreneurial, il faut faire ce qu'on aime faire. Et moi, je t'ai dit que toute ma carrière avait été marquée par des rencontres. Bah, finalement, l'investissement, c'est des rencontres aussi. Donc, en fait, je travaille sur ce qui m'amuse le plus, entre guillemets, c'est rencontrer des personnes, des hommes, des femmes différents, m'intéresser à leur vie, leurs projets, et leur donner confiance, et leur donner peut-être un peu d'aide, comme un coach, pour qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout de leur projet.
Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur One Rectime, notamment combien de projets dans lesquels vous avez investi, une somme potentiellement? Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres?
Ouais, aujourd'hui, on a investi dans une trentaine de projets. On met des tickets d'investissement entre 700 000 et plusieurs millions d'euros. On a déjà eu trois sorties, donc deux partiels. On a une très jolie performance par rapport à notre activité déjà. On a aidé à la création de plus de 1300 emplois. Et aujourd'hui, on investit très tôt. Souvent, il y a très, très peu de revenus dans les sociétés, mais on a déjà une dizaine de grosses PME qu'on a financées. Donc, on parle de la start-up et puis on arrive vite à des belles PME ou des belles ETI.
C'est généralement bon signe. Et c'est quoi les objectifs futurs pour conclure sur One Rack Time?
Devenir un des acteurs incontournables, une plateforme d'investissement incontournable en Europe pour les entrepreneurs et les investisseurs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tu peux pas. On peut pas en rester là. On pourrait se dire, bon, on continue à faire ce qu'on fait, du petit club deal, des projets en amorçage, en série A. Mais non, il faut qu'on aille chercher plus gros. Parce que si on veut être comme nos entrepreneurs, il faut qu'on soit capable d'avoir de la puissance de feu sur de l'investissement. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'internationaliser, d'institutionnaliser One Rack Time et devenir le fonds de référence pour les entrepreneurs à horizon 5 ans, à faire partie des 10 fonds incontournables pour les entrepreneurs en Europe.
Ok, super. De très beaux objectifs. On va pouvoir passer à la partie bilan. J'ai deux questions dans cette partie. Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale?
En fait, c'est ce que je n'avais pas conscience avant d'entreprendre, c'était la pression du cash. Donc, à plusieurs reprises de l'histoire de One Rack Time, je n'ai pas géré le cash comme il fallait, soit parce que ça partait pas comme je voulais au début, soit parce qu'on avait mal défini notre modèle d'affaires, soit tout simplement aussi parce qu'on n'avait pas collecté l'argent qu'on devait collecter. Donc, la pression du cash, et puis nous, on s'applique ce qu'on demande à nos entrepreneurs, à l'exception du fait qu'on a plutôt bootstrappé One Rack Time, excuse-moi d'utiliser ce terme, mais on a très, très peu levé pour faire One Rack Time. Donc, j'ai vraiment, moi, amorcé. On a fait une petite levée de fonds, mais qui reste minime par rapport à ce qu'on peut investir, nous, dans des projets à des stades d'investissement beaucoup plus avancés pour les mêmes résultats. Donc, in fine, on a un modèle très, très efficace. Mais je me suis fait des frayeurs à plusieurs reprises sur le cash. Donc, ça me donne certainement une empathie aujourd'hui auprès de mes entrepreneurs que j'aurais pas eu avant parce que j'avais pas du tout cette conscience. En fait, c'est à un moment, tu es bien par rapport au cash que tu as sur ton compte en banque. Hein. Mmh. Donc, il faut avoir suffisamment, mais en même temps suffisamment accéléré. Donc, ça, c'était des moments qui ont été assez tendus. Si on m'avait dit que ça serait aussi long, je suis pas sûre que j'aurais signé pour ça. En fait, quand t'es entrepreneur, t'es quand même assez seul, hein. Au début, faut montrer que tout va bien, parce que si tu montres pas que tout va bien, t'auras jamais personne qui va te suivre, hein, que ce soit les collaborateurs, que ce soit tes premiers clients, tes premiers investisseurs, tes premiers entrepreneurs. Mais c'est quand même assez rude. Donc ça, c'est aussi un des enseignements, hein, c'est que, ouais, entreprendre, bah ouais, au début, faut tout faire soi-même, quoi. Tu passes d'un groupe de 200 000 personnes où tu as 250 personnes qui bossent pour toi au moment où tu es seul avec ta feuille de papier sur ton bureau et tu dois créer tes comptes, tes premiers comptes et adresses One Rack Time. Non, mais je le vois souvent avec des jeunes entrepreneurs où on leur amène les premiers financements, le premier million et puis en fait, ils sont dans la phase où ils étaient 2-3 et puis ils doivent embaucher. Et là, c'est ce passage-là. Il est assez costaud.
Le passage d'entrepreneur à manager, à dirigeant, enfin c'est effectivement.
Oui, toutes ces phases-là, c'est clair parce que tu as une énorme intensité de travail. Donc et je pense que moi j'ai beaucoup plus travaillé ces dernières années que j'avais jamais travaillé quand j'étais salarié. Donc, c'est un choix. Enfin, c'est un choix et en fait, tu n'as pas le choix. Parce qu'une fois que tu es parti dedans, tu ne peux pas dire, bon, bah, finalement, il y a trop de boulot, je m'arrête, quoi. Hein,
c'est clair. Et ma deuxième question bilan, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui?
Aujourd'hui, de l'équipe que j'ai constituée, des vocations d'entrepreneurs de cette équipe, puisque j'ai quelques collaborateurs déjà qui sont partis pour créer leur entreprise. Donc ça me rend fière. Je me dis, tiens, j'ai inspiré. Des emplois qu'on a aidé à créer, hein, toi, c'est 1300, 1400 emplois déjà créés par les sociétés One Rack Time, je trouve que dans lesquels on a investi. C'est super. Je suis très fière aussi quand j'ai des entrepreneurs qui me disent « Mais si tu n'y avais pas cru au début, on n'en serait pas là. » Ça aussi, toi, c'est je me dis « Bah ouais, on n'est pas arrivé après les autres quand la bataille était finie. Toi, on n'est pas arrivé, on a vraiment joué un rôle critique dans le développement de la société parce qu'à un moment, on y a cru, au moment où personne n'y croyait. » Souvent, hein, c'est ça. Hein, c'est, aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup d'argent sur la table et tout. Mais en fait, la différence entre un projet qui arrive à se financer au début et un projet qui se finance extrêmement bien, elle est très fine, elle ne tient pas à grand-chose. Il y a des moments critiques. Souvent, tu passes proche de la catastrophe, puis tu y arrives et tu passes une étape. Donc ça aussi, ça me rend fière quand les entrepreneurs me disent « Sans toi, on ne l'aurait pas fait. »
Ouais, ok. Et on va passer à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué, si tu pouvais m'en citer une ou deux?
Alors, en rencontre, forcément Jean-Marie, parce que on m'aurait dit quand j'étais étudiante un jour que je serais associée à Jean-Marie Messier, je pense que j'aurais jamais cru. Donc ça, c'était quand même c'est un monstre sacré du capitalisme français. Donc c'était génial d'avoir. Enfin, avec le recul, je me dis, mais c'est lunaire d'avoir fait quelque chose avec mon mari. Et je pense que quand j'étais étudiante, si on m'avait dit ça, j'aurais dit, mais même pas en rêve, quoi. Ça, c'était énorme. Après, dans les rencontres aussi, tous mes parrains autour de One Ragtime, je pense à Philippe Bourguignon, qui est un grand monsieur, Patrick Seyer, Virginie Morgon, Philippe Carl, c'était des rencontres incroyables au quotidien, des gens qui m'inspirent et qui sont là, présents, comme d'ailleurs tous nos entrepreneurs. Tu vois, moi, à chaque fois que je vois un de nos entrepreneurs, je suis super contente parce que je me dis, waouh, il est en train de faire quelque chose. Et puis, sur une note plus assez forte, c'est ma rencontre de l'ouverture du show de Michelle Obama à Paris, Becoming, où j'ai fait partie des 5 personnes qui ont introduit Michelle Obama. Alors là, c'est pareil, si vous voyez un jour que je ferai Bercy, l'Accor Arena avec 25 000 personnes dans la scène, je n'aurais jamais cru.
C'est ouf, c'est génial. Ça devait être un moment particulier.
Ouais, mais comme toujours, tu ne le réalises pas que quand tu es dedans, parce que si tu le réalises avant, là, c'est fini. Donc moi, dans ces cas-là, je n'y pense pas, j'y vais et je me dis ça, c'est fait.
Est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui? Pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais des personnes qui t'inspirent, ça peut être sportif, artiste, comédien.
Aujourd'hui, je suis assez bluffée quand je vois... des femmes qui arrivent à concilier une vie engagée en politique, dans l'économie, tu vois, je pense à qui en même temps sont des mères de famille. Ça, je me dis toujours, mais comment, je sais pas comment Christine Lagarde elle a fait pour arriver à avoir ce niveau de responsabilité. C'est ça qui va m'inspirer. Je me dis, y a quand même des femmes qui ont des parcours exceptionnels et qui arrivent à faire les deux, donc ça va m'inspirer. Je suis assez inquiète, c'est pas une inspiration, mais d'une manière générale, la place des femmes dans la société, la régression qu'on peut avoir dans un certain nombre de pays, même des pays qui sont très proches de nous, je pense aux États-Unis, en Pologne. Donc, je me dis, on a encore plus besoin de femmes qui osent et qui montrent que, on a 50% de l'humanité qui est égale aux 50 autres pourcents. Donc, toutes ces femmes qui sont sur le combat pour exister en tant que femmes dans des pays où ce n'est pas forcément facile, je leur donne un tribut.
Très clair. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée?
Écoute, tu dois avoir certainement devant toi l'une des seules chamoniardes de cœur qui est censée faire le Mont Blanc tous les ans et qui ne l'a pas encore fait.
Ah, ok. Donc ça, c'est un projet à venir.
C'est un projet à venir, mais tu vois, quand on habite Chamonix, c'est pas évident à assumer. Donc voilà, j'ai un défi à me lancer, tu vois. Je pense que je vais prendre ma retraite dans pas longtemps pour aller faire plus de montagnes.
Ok, super. Et dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer dans l'entrepreneuriat?
Démarrer tout de suite. N'attendez pas. Et ça va être, par contre, ça va être très très long et très dur. Donc, il faut être persévérant.
Efficace. On passe à la dernière partie du podcast. Quelques petites questions rapides. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Pas forcément lié à l'entrepreneuriat.
J'ai beaucoup, beaucoup aimé L'Anomalie, que j'ai lu cet été. D'habitude, les Goncourt, je me dis, bon, voilà. Et ça, je te conseille vivement de le lire. C'est la première fois qu'on a, je crois, un livre de science-fiction qui a reçu un Goncourt. Très, très bien écrit.
Écoute, c'est noté. Je l'achèterai dans les prochains jours. Est-ce que tu as un film à me conseiller ?
Ouais, pendant le confinement, j'ai revu tous les vieux classiques et quand même, les Tontons Flingueurs, ça reste énorme.
Ouais, je suis d'accord. je les ai déjà vus. Ta musique du moment ?
Ma musique du moment, j'écoute pas mal de voix de femmes en ce moment. Donc, et je peux aller, Véronique Sanson, là, tu vois, j'écoute un peu en boucle. Je sais pas, okay. Ça doit... Voilà, c'est...
Ça donne du peps.
C'est la musique du moment. C'est ce que j'ai le plus sur mon Spotify.
Ok. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle ?
Oh, j'irais aux États-Unis. Je me ferais un petit trip à la Elon Musk. Voilà, société comme ça, des trucs impossibles.
Ouais.
Mais bon, j'irai pas dans l'espace. Quand même. La Terre. Non, je me concentrerai sur la Terre et les océans en me disant que la nouvelle frontière, c'est ça.
Et dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Pour un prochain épisode, je vais forcément te conseiller des entrepreneurs One Rack Time.
Tous ceux que tu m'as cités, entrepreneurs atypiques notamment ?
Ouais, c'est bien ça. Tu devrais, entrepreneurs atypiques, tu devrais faire un comment on passe de sportif de l'extrême, musicien, ouais. Climatologue à entrepreneur.
Eh bien, écoute, pour la prochaine saison, j'hésiterai pas.
Lisa, Thaï Chris, André Manoukian, voilà, programme.
Et je pourrais t'envoyer un mail potentiellement pour des petites mises en relation, si besoin.
Bien sûr, avec plaisir.
Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Stéphanie pour cet échange. J'ai beaucoup apprécié, j'espère que toi aussi, et j'espère que les auditeurs aussi. Et puis j'espère que potentiellement, on se retrouvera, je ne sais pas, dans quelques années pour refaire un point, peut-être sur cette aventure One Rack Time et peut-être d'autres aventures aussi, qui sait.
Bah, surtout, tu vas venir me présenter tes nouveaux projets.
Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, allez, bye bye Stéphanie.
À bientôt, ciao, ciao.
Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.